bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale de vacances, c'est-à-dire bande originale sans Nagui, mais avec Albert Albou.
Bonjour.
Tom Villa.
Oui, bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Guillermo Bouiz. Dans la dernière demi-heure, Tanguy Pastureau pour maltraiter l'info. Beaucoup d'hommes autour de cette table, beaucoup d'hommes. Et Leïla Kadour.
Bonjour, Daniel Morin, nos invités aujourd'hui dans la bande originale sont Vincent Cassel et Reda Kateb. Explosion de joie. Ça, c'est un accueil quand même, tous les deux. Bonjour.
Bonjour.
Soyez les bienvenus. Vous venez nous parler d'un très, très beau film. On est très nombreux à l'avoir vu autour de la table, à l'avoir beaucoup aimé et à avoir plein de choses à vous dire. C'est presque de la déclaration d'amour, n'est-ce pas, Albert? Je te vois avec l'œil qui frise. Le film, c'est Hors Normes. Il est en salle à partir de ce mercredi,
demain.
À savoir demain, réalisé par un duo qu'on aime aussi beaucoup, Éric Toledano et Olivier Nakache. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que ça fait d'avoir participé à un tel film. Vous l'avez vu, j'imagine. Vous avez déjà fait des projos. Mais il y a certains acteurs qui refusent de se voir, donc on n'est jamais à l'abri. Quoi.
On était à Cannes.
Vous étiez à Cannes
avec la projection et
en ouverture.
Je crois que c'est la fierté surtout de faire partie de ce film-là.
Ouais.
C'est-à-dire que. Excuse-moi, Reda, je prends la parole.
Mais au contraire.
Merci beaucoup, Reda.
On s'entend très bien.
Je l'apprendrai juste après toi. Tu es d'accord.
Je l'attendrai pas. Sur leur relation. Ils s'entendent bien.
Et non, c'est-à-dire que, en fait, la sensation, là, c'est. Le propos du film dépasse le film. Et du coup, en fait, on fait de la promotion pour un film. Et finalement, non, on est en train de mettre. En fait, on exergue ce problème, plus que tout. En fait.
Ouais.
Le film reste à sa place, il n'y a pas de posture. C'est une comédie, mais on y pleure, comme vous avez pu l'expérimenter. Le sujet est vraiment traité pour ce qu'il est. Et, enfin bon, voilà, vous allez en parler mieux que moi, je le sens.
Vous incarnez, juste pour rappeler à nos auditeurs qui nous rejoignent, vous incarnez Bruno et Malik. Ça fait plus de 20 ans qu'ils évoluent dans un environnement, on va dire, où on les laisse complètement abandonnés. Ils sont un peu abandonnés par l'État, ils sont un peu seuls. Ils s'occupent d'enfants, d'adolescents, d'adultes, autistes, des autistes sévères. Et ils fonctionnent un peu avec les moyens du bord. En effet, ils n'ont pas forcément tous les agréments, ils n'ont pas forcément toutes les autorisations, mais ils ne laissent jamais, ou ils essayent en tout cas de ne pas laisser un gamin voué à lui-même, seul avec ses parents. C'est un sujet, Albert, sur lequel je vais te laisser t'exprimer tout de suite.
Bah, c'est-à-dire que ce sont des personnes hors normes, les deux personnages qu'ils incarnent, Bruno et Malik, sont hors normes parce que effectivement ils s'occupent de personnes hors normes, à savoir des autistes sévères. Et moi, avant d'aller voir le film, je redoutais une chose, c'est que la réalité soit édulcorée, que une fois de plus on verse dans l'esthétisation ou dans une vision simpliste des autistes.
Il faut préciser que tu connais le sujet de près.
Voilà, dont on réduit le handicap à des performances comme celle du film d'Henri Mann, qui sont respectables.
Oui.
Mais en fait, ce n'est pas ça l'autisme la plupart du temps. Ce sont des personnes dont le handicap est profond, la communication est difficile, il y a une absence d'autonomie, il y a de la violence, beaucoup d'automutilation, comme c'est montré avec un des personnages qui porte un casque en permanence, beaucoup de violence, une grande difficulté. Et néanmoins, ces personnes, elles ont besoin d'une attention adaptée. Et là, dans le film, Reda et
Vincent,
incarnent deux personnages bien réels, Stéphane Benhamou et Daoud Tatou.
C'est inspiré de deux personnages
Tatou,
réels, voilà. C'est pas un biopic.
Tout à l'heure.
C'est pas un biopic, parce qu'il y a des libertés qui ont été prises nécessairement avec
leur vie. C'est-à-dire que le souci de réalisme, le vérisme, ne nuit pas à la fiction.
Absolument.
Et je voulais dire d'abord aux gens qui ne sont pas concernés par ce problème que c'est un film tout à fait formidable. C'est un film grand public.
On rit beaucoup.
Ouais. C'est très drôle parce que l'humour vient, comment dire, dédramatiser certaines situations qui sont pourtant très sévères. Et en cela, c'est un film très, très réussi. Donc je voulais dire hors normes les deux personnages principaux, hors normes les personnes dont ils s'occupent et hors normes les jeunes qu'ils forment, qui deviennent des référents, qui au départ sont sans diplôme, qui sont
des
mecs et des nanas
société,
qui viennent
des
cités, de banlieues, je ne veux pas simplifier les choses, mais qui sont au départ, disons, qui se sentent délaissés, qui se sentent rejetés,
dans le film,
sur lesquels on
dit,
porte un regard négatif très souvent ou méfiant, et qui acquièrent, qui sont valorisés par le boulot qu'ils font. Certains restent, certains partent. Mais donc, hors norme, la notion est complexe parce que ça définit pas seulement les deux personnages que vous incarnez.
Ouais, il faut rendre hommage à ces deux personnages qui ont inspiré les vôtres. Daoud Tatou sera avec nous tout à l'heure. Il est avec nous dans ce studio. Qu'est-ce que ça fait d'incarner des personnes qui existent vraiment? Vous les avez sans doute rencontrées, je crois, un petit peu suivies, passées un peu de temps avec eux. Je me souviens, Vincent, dans une interview, vous parliez de la démarche de cet homme que vous incarnez à l'écran, en essayant de voir un peu comment il marchait, comment il évoluait, que c'était inspirant pour vous, pour l'incarner.
Oui, je me suis attaché à des petits trucs physiques, mais c'est pas l'essentiel, honnêtement. Ouais. Moi, ce que j'ai tout de suite vu chez Stéphane Benhamou, et je n'oserais pas parler comme ça devant lui parce que ça le dérangerait sûrement, ouais. Mais j'ai vu quelqu'un d'extrêmement bon, généreux, humble. Enfin, je veux dire, c'est le genre de personne qu'on croise assez rarement. Peut-être qu'il y en a un autre qui va venir nous rejoindre tout à l'heure, qui est Daoud. Mais quand on voit l'abnégation, la détermination et à quel point ils mettent leur vie au service de ces jeunes,
ouais.
Bon, je veux dire, voilà. Ouais. Dans certaines religions, on les canoniserait peut-être.
Mmh, ouais, sont des héros, des héros du quotidien. Parce que tout à l'heure, Léla, tu disais que on les laisse un petit peu en roue libre, mais au-delà de ça, on leur met même des bâtons dans les roues par l'administration. Ça va au-delà de ça.
Le film va raconter justement cette inspection qui va un peu aussi bouleverser tous les personnages et qui va nous permettre, nous, spectateurs, de voir dans quelles conditions ils doivent évoluer. Alors, Reda Kateb, vous êtes obligé de parler devant Daoud Tatou qui va vous entendre, donc forcément votre ressenti.
Dire
à vous.
Que c'est un sale type. Hein.
Je vous laisserai vous expliquer. On est à la radio, donc c'est pas très visuel, mais vous n'avez pas exactement la même carrière. En tout cas, non, nous, tout n'a pas commencé pour nous par une inspection, mais par la rencontre avec ces lieux-là. C'est vrai que Vincent comme moi, les réalisateurs sont venus nous voir pour nous présenter le projet, et très rapidement, on est allé visiter les deux associations. Et l'un comme l'autre, en fait, c'est là qu'est parti le désir de faire ce film, avant un scénario, avant même de connaître plus, comme on se connaît maintenant, de mon côté Daoud et Stéphane pour Vincent. C'était ce terrain, ce lieu et toutes les énergies qui circulaient dans cet endroit-là. Il faut savoir que, voilà, vous avez effectivement des gens qui sont très peu regardés ou mal regardés par la société et qui vont ensemble se tirer vers le haut. Il y a quelque chose, Daoud pourra vous en parler, ce qu'il a souvent coutume de dire, qu'il fait du plus avec du moins. Voilà, c'est ouais. Ces jeunes de quartier qui ne sont les référents de personne, qu'on appelle référents et qui vont s'occuper à chaque fois d'un autiste. On était avant-hier dans un débat où il y avait un des éducateurs comme ça qui en parlait très bien. Il disait, c'est gratifiant. Quand je me regarde dans la glace et je sais que j'ai fait quelque chose de bien dans la journée et je suis fier de moi, en fait. Mmh. Voilà.
C'est trouver une place dans la société aussi pour eux, quoi. C'est aussi ça que ça leur apporte.
Bah, en fait, ça nous raconte quelque chose qui tombe sous le sens,
ouais.
mais qui est à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de nous dire sur comment on vit ensemble. C'est-à-dire que si vous regardez l'autre avec de la confiance, alors tout son talent pourra se déployer.
Ouais.
Vraiment, quels que soient finalement les handicaps qu'il peut avoir, c'est ça finalement, vivre ensemble.
Les deux associations, c'est Relais Île-de-France pour Daoud Tatou et Le Silence des Justes pour Stéphane Benhamou. On aura l'occasion d'en reparler, mais en début d'émission, on fait toujours une petite interro pour voir si cette troupe si masculine du jour, d'ailleurs, a bien bossé. J'aime bien me retrouver en tête. Allez, on se tait maintenant. Première question. Après avoir joué une question qui concerne Reda Kateb, alors Reda et Vincent, vous ne dites rien, vous les laissez se dépatouiller. Question qui concerne donc Reda. Après avoir tourné le film Django, sur le plateau du film suivant, Reda avait une sorte de réflexe qui lui vient de Django, mais qui ne parvenait pas à oublier, à laisser de côté. D'après vous, de quoi s'agissait-il ?
Prendre une guitare, vous voulez
Prenez une guitare, non. Il prenait pas une guitare à chaque prise. Qui a tenté cette
réponse? Oui, c'est moi.
Tu oublies, Tom. Non. Pensez à Django, pensez à une particularité peut-être de Django.
Il serrait la main.
Il serrait la main, non.
Il crachait.
Il se rongeait les ongles.
Il quoi?
Il chiquait.
Daniel, t'as dit quoi?
Il reproduisait le problème qu'il avait à la main.
C'est-à-dire, c'est quoi le problème?
Bah, il manquait
des
doigts.
Il avait deux doigts. Il s'est poussé
bravo,
un doigt.
Bravo, c'est ça, exactement.
Et Reda s'est laissé pousser un doigt.
Reda, ouais. Non.
Bah, il est vraiment professionnel.
Il
en a sept aujourd'hui.
Ouais, c'est une anecdote.
Il replie.
L'enfer pour les gants.
On va laisser Reda expliquer.
C'est un acteur complet.
Ouais.
Alors, je suis sûr que oui, il y a un grand suspense.
Non, mais allez-y, comme ça, on les départage, on n'en parle plus. Ouais.
Non, en fait, oui, comme j'ai passé plusieurs mois avec la main figée dans la position de celle de Django, j'avais tout de suite, dès que j'entendais moteur, les doigts qui se rétractaient, la main qui se remettait en position de Django. Ouais. Il m'a fallu 2-3 films, mais sur hors norme, ça avait déjà disparu.
On continue avec Vincent. Vincent, pour jouer Mérine, a dû prendre 20 kilos. Mais il a dû aussi...
Les perdre.
Ouais. Allez, ouais, mais quand, mais quand. Ah ouais. Bah, les perdre, oui, mais quand, je me doute.
Enfin, les, ça l'été d'après. Non, je sais pas.
C'est, quoi, c'est pendant le film.
Absolument. Ah oui. Bravo. Pendant le tournage. Donc là, ouais, les contraintes sont quand même un peu plus serrées.
Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tous des natures. Moi, j'aurais tendance à maigrir quand je travaille.
Ah.
Le stress me fait maigrir.
Vous avez la chance.
Et du coup, j'ai tout de suite mis en place avec Jean-François Richer. Je lui ai dit, écoute, il faut qu'on tourne le film à l'envers. Je vais grossir avant le film. Et puis, dès qu'on va commencer à travailler, je vais maigrir jusqu'à mes 25 ans.
D'accord.
Dans le film.
Et vous avez cette facile gestion du... enfin, c'est
ça m'a été difficile, en fait, de... Je commençais à maigrir trop vite. Donc,
ouais,
il fallait que je fasse gaffe. Allez, c'était assez calculé, tout ça.
Vous avez déjà eu besoin, Reda, pour un film, de prendre beaucoup de poids, ou c'est un truc que vous accepteriez?
Non, j'aimerais beaucoup, d'ailleurs.
D'en prendre beaucoup, d'en
mais
perdre.
Mais d'en perdre, j'ai déjà eu l'occasion. Donc, c'est pour ça, s'il y avait moyen d'en prendre pour un prochain rôle, j'aimerais beaucoup.
On continue. Une question qui concerne Reda. Quand Reda reprend une phrase de Jean Rochefort, la phrase est la suivante. Ça met l'horizontalité dans ma verticalité. De quoi parle-t-il? Ça met l'horizontalité dans ma verticalité.
Ah, de son sexe.
Quand il fait la sieste.
Ça va pas, non, mais enfin, t'es sérieux.
Non, mais tu penses fort, Tom.
Tu m'as entendu, là?
Ah, mais ouais. Ouais.
Moi, j'ai peur pour Madame Villa, sûrement.
Alors, ça met l'horizontalité dans ma verticalité. Vous l'avez, Reda?
Ah, c'est la moustache, non?
Bravo!
Ah oui, bravo.
Donc,
pas mal.
Incroyable, ouais, ouais. Incroyable.
Tu connais,
c'est quoi, c'est une citation de Jean Rochefort que vous avez lue?
Ouais, je sais pas si je l'avais formulée comme ça, ou alors c'était peut-être un peu tard le soir, mais en tout cas,
ouais, c'était
en tout cas, ouais, Jean Rochefort qui disait pourquoi est-ce qu'il aimait tellement sa moustache, c'est qu'il avait un visage très long, je me reconnais là-dedans, donc voilà, pour l'instant, j'aime bien porter ma petite moustache. Ouais.
On continue avec Vincent. Qu'aurait pu faire Vincent comme autre métier s'il n'était pas de...
danseur,
chaudronnier,
proxénète.
Est-ce qu'on peut
s'arrêter deux est-ce qu'on peut s'arrêter sur... Attends, Albert, est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient, proxénète? Parce que
oui, c'est vrai que
le juge pas.
Et puis c'est sorti du fond du cœur.
Il est très spontané.
C'est une première intention, ça. Donc ça veut dire.
Non mais ce qu'il veut dire, c'est que c'est pas donné à tout le monde. Voilà.
Allez, on continue. La prochaine fois, j'enlève des points. Sinon, je vous en donne pas, j'en enlève. C'est un métier physique.
Ah bah proximité.
L'enfer. Alors,
encore
un indice. Un indice, sportif. Bah non. Sportif, c'est en lien avec le sport.
Boxeur,
ouais,
c'est un
boxeur.
Non, c'est circassien quoi. Enfin,
c'est en lien avec le sport, avec le corps.
Bah,
un contorsionniste.
Ouais, enfin, de cirque.
Il avait dit boxeur. Non,
j'ai pas dit que c'était un sportif. J'ai dit que c'est en lien avec le sport.
C'est pas une raison d'être désagréable.
Bah, si, bah, ouais, mais tu t'entêtes.
Entraîneur.
Mais elle nous aime pas profondément. Il y arrive un moment, ça se sent.
Répondons. Alors,
arts martiaux, faire des arts martiaux.
Non, c'est un rapport avec le soin.
Ah, esthéticienne.
Kiné, un truc.
Kiné, bravo, ouais, kiné. Ouais. Kiné.
Non.
Voilà. Alors, on retire
ostéopathe. Ah, ouais, parce que vous avez commencé par dire un kiné, mais un kiné pointu. Donc, je me disais, qu'est-ce que c'est qu'un kiné pointu? Un ostéopathe.
Un kiné pointu,
je vais dire. On va rester là.
Après, Gouré, il y a eu des problèmes avec ça.
Une petite dernière, et puis après, on reparle de ce très très beau film hors norme. Une question qui concerne Reda, mais enfin, qui peut concerner les deux, finalement. Quelle spécificité, je vais retrouver la question, je suis en train de l'inventer en même temps.
Oui, c'est ça.
Mais comme moi,
elle est préparée.
J'avais une super question.
Pourquoi les gens pensent que.
Pour la fin, mais alors la gueule.
On se moque de Nagui, et lui, il est préparé avec ses questions.
Je sens venir une question sur la gueule.
Allez, non, pas du tout sur la gueule. C'est une question qui concerne justement le film. Quelle est la spécificité de ce film pour les deux comédiens que nous recevons aujourd'hui?
Ils n'ont pas été payés?
Non.
C'est large comme question.
Il y a quelque chose de
spécificité de ce film.
Ouais, c'est-à-dire que généralement, il y a un certain nombre d'étapes qui
Président
le scénario avant d'accepter.
Bravo. Et ça nous permet de revenir directement à ça.
C'est sorti comme ça.
C'est parce que c'est Toledano et Nakache, tout d'un coup, qu'on se dit, on a confiance. Parce que je crois que dans un premier temps, ils vous ont mené dans les associations pour voir comment vous réagissiez.
Et bah, en partie, oui, ouais. Bien sûr, quand vous savez que deux maîtres de la comédie comme eux et qui en plus ont voilà cette humanité au premier regard qu'est la leur, vous savez que vous n'êtes pas avec n'importe qui pour raconter cette histoire. On aurait peut-être été plus méfiant ou on aurait demandé à lire si c'était un premier film. C'est un sujet très délicat. Et je pense que c'était les meilleures personnes pour s'en emparer.
Ouais. Ouais, vous, Vincent, même chose, c'est confiance absolue en se disant je pense qu'ils vont m'emmener dans un endroit aussi en tant que comédien, c'est-à-dire que dans un rôle, ils vont aussi m'offrir un rôle.
Alors c'est un mélange de tout. Ouais. C'est vrai que Nakache et Toledano, sur le papier, ça donne envie parce que je vois bien ce qu'ils font des acteurs et c'est toujours très intéressant. Le propos était tellement incroyable et tellement expérimental et en plus me faisait un peu peur parce que moi j'avais peur de jouer avec les autistes au début. Je me demandais comment ça allait se passer et si je serais capable. Et puis Reda, c'est-à-dire que voilà,
bon, c'est une nouvelle association.
L'autisme, Reda Kateb, je vois. Chacun, ouais. J'ai dit oui tout de suite aussi.
Et justement, comment vous avez appréhendé les premières scènes avec les autistes? Parce que ce qui est aussi très très beau dans ce film, c'est qu'il y a une telle vérité dans leur interprétation, parce qu'en fait, ils n'interprètent pas. En tout cas, j'ai la sensation qu'ils jouent mais avec une nature tellement proche de la réalité qu'ils en sont d'autant plus bouleversants. Ça fait des partenaires. Difficile, c'est-à-dire que ça doit vous poser aussi des questions dans votre façon d'interpréter et de jouer les rôles. Ouais.
Il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à renvoyer la balle. C'est pas le texte forcément qui va arriver. Il peut y avoir des réactions de toutes sortes, des fois qui sont complètement décalées par rapport à la situation. Mais en fait, quand c'est par exemple Benjamin Le Sieur qui le fait,
qui incarne Joseph,
qui joue donc Joseph, qui est donc autiste et qui joue un des rôles principaux du film. En fait, tout ce qu'il fait, c'est juste. Ouais. Et dès qu'il est dans le cadre. J'ai envie de vous dire, nous, on a juste à y réagir. Et de toute façon, il y a un côté, tout d'un coup, documentaire et réaliste.
Oui.
Et ça, lui, il l'a, nous, on l'a pas. Nous, des fois, on est mauvais et ça sonne faux.
Oui, on a la sensation, quand vous interagissez avec lui, que vous êtes...
Ça fait longtemps qu'ils voulaient jouer ensemble. Ça fait très longtemps.
Non, mais on a vraiment la sensation, l'un comme l'autre, quand vous interagissez avec un adolescent autiste ou avec un adulte autiste, qu'il y a quelque chose très émouvant d'une vérité qui dépasse même le jeu même. Moi, vous m'avez donné les larmes aux yeux juste de voir votre regard porté sur le personnage de Joseph. Quand vous l'emmenez au boulot le matin, que vous le voyez courir et que vous dites non, il ne faut pas qu'il court, parce que on cherche à le réinsérer dans la vie aussi, dans l'emploi. Moi, vous m'avez donné les larmes aux yeux.
Mais c'était très amusant à faire. Vous savez, on a beaucoup rigolé à le faire. Et puis, j'ai tout de suite vu qu'il était heureux d'être là, en fait, le premier jour. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup rassuré. J'ai vu qu'il prenait du plaisir, que finalement, tout ce petit cirque qu'est un tournage de film, il se sentait à l'aise, il se sentait considéré, il se sentait à sa place. Et il prenait du plaisir à le faire. Voilà, à sa manière.
Ouais, c'est toutes les personnes autistes qui sont au premier plan dans le film ont eu vraiment du plaisir. C'est-à-dire, c'est des gens qui font des activités artistiques en dehors, qui sont rien n'a été volé à personne. Voilà, si on est dans un film qui parle d'inclusion, et vraiment, je pense que Vincent comme moi, on se sent pas vraiment des professionnels. On arrive sur un tournage comme des professionnels. Donc des gens avec lesquels il faut inventer un langage à chaque fois en un pour un avec une personne qui n'est pas un langage de code, qui n'est pas un langage de mots, qui passe aussi beaucoup par les yeux et qui sont à ce point-là dans le moment présent. Nous, ça nous réapprend ce qu'on a à faire sur un plateau, en fait.
Oui, ce qui va être très délicat dans le film, c'est comment apporter de la légèreté quand le sujet est aussi sérieux, aussi pesant. Et c'est très très bien fait parce que c'est tout en subtilité, notamment avec le personnage de Joseph. Bon, on va pas tout spoiler, mais il a un petit problème de toc.
Mais nous, les acteurs, on en a plein.
Avec un moteur. Il a un gros problème avec le signal d'alarme. Et c'est un petit peu un fil rouge jusqu'au bout. C'est fait de façon très légère. Ça apporte du sourire. Et aussi, votre personnage, Vincent Cassel, qui a quelques problèmes avec sa vie sentimentale.
Mais qui n'en a pas, en fait.
Donc, il essaye.
Il y a un truc qui est très, très fort de la part de Eric et de Nakache et de Toledano, c'est qu'en fait, tout est quand même très écrit. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils arrivent à choper des petites pépites de vie en fonction des accidents permanents qui peuvent se produire sur un film. Mais tout est écrit. Chaque vanne est là. Vous savez, c'est du papier millimétré. J'avais peut-être une fausse idée de leur manière de faire avant de travailler avec eux. Mais en fait, là où ils sont, c'est vraiment pas par hasard. C'est-à-dire que c'est tenu de manière quasi millimétrée.
Et le fait d'être dirigé par deux réalisateurs, ça veut dire qu'on bénéficie du meilleur du duo à chaque fois. Comment le relais se passe aussi? Parce que on pose souvent ces questions-là. Ils se répartissent pas complètement le travail en disant d'un point de vue technique, d'un point de vue direction d'acteur. Ouais.
Non. Au début, moi, je me demandais. Alors, du coup, j'essayais d'identifier. Je voyais Eric qui venait plus à la face, au premier plan, parler avec les acteurs. Je me disais, ah d'accord, Olivier, il reste en retrait, lui, il regarde. Et en fait, non. Très rapidement, je me suis aperçu qu'ils s'interchangeaient les rôles en permanence. Des fois, ils venaient nous dire des choses contradictoires. Ils disaient, ah bon, bah, on en fait une pour l'un et une pour l'autre, une prise pour l'un et une prise pour l'autre. Et donc,
Et qui drivait justement Benjamin Le Sieur? Parce que vous avez beaucoup de scènes avec lui. Ça veut dire qu'il y a une interaction particulière encore une fois. Ça veut dire que c'était vous aussi, une sorte de double de metteur en scène dans ces circonstances?
Alors, au début, ils parlaient chacun leur tour à Benjamin. Et du coup, Benjamin était un peu perdu aussi. Et du coup, moi, j'avais du mal à avoir mon rapport avec lui. Et à un moment, j'ai été les voir, je leur ai dit, écoutez, tout ce que vous voulez lui dire, l'un et l'autre, vous me le dites à moi, et c'est moi qui lui dis. Comme ça, finalement, on est tout le temps dans une interaction, nous deux. Et puis vous avez qu'à tourner tout le temps.
Ouais.
Et c'est ce qu'on a fait, plus ou moins, quand même.
Plus ou moins.
Ouais, plus ou moins. Après, non, parce qu'ils aiment bien, ils sont très participatifs, même quand on est devant la caméra.
Un très beau film, vous l'aurez compris, hors norme. J'ai parlé rapidement du casting. Au-delà de nos invités, il y a Hélène Vincent qui est bouleversante.
Remarquable.
Ouais, qui est bouleversante. On va revenir sur cette scène. Alban Ivanov, Brayam Mialundama, Benjamin Le Sieur, donc Marco Locatelli, Catherine Mouchet, Frédéric Pierrot et Sulian Brahim de la Comédie Française qui incarnent ces inspecteurs de l'IGAS. Eux aussi ont un rôle important dans le questionnement de la société par rapport à ces autistes sévères. Aloïs Sauvage, Lina Koudry, Djibril Yoni, Ahmed Abdellaoui, comme ça on donne tout le monde, Darren Muselet et Sophie Gary.
Maintenant, messieurs, vous allez pouvoir vous détendre. C'est Tom Villa qui prend en charge les questions, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il fait aussi les réponses. Tom Villa.
Vincent Cassel, Reda Kateb, soyez les bienvenus dans la bande originale sur France Inter. D'ailleurs, on ne le fait pas assez souvent. On va prendre 10 secondes pour savoir si tout va bien. Peut-être t'as envie de boire un truc.
Pas grand-chose, rien.
Vous êtes sûr, Vincent? Même pas un petit café? Non.
Je sais pas, je viens ici, on m'agresse direct, c'est pas possible.
Ah non, pardon, je vous jure, je vous agresse pas. Au contraire, je prends soin de vous, mais c'est pas grave. Vous, Reda, vous avez une envie?
On a envie de mettre les voiles, de partir de là.
Oui, très bien. Ok, c'est pas grave. Alors, juste par contre, attention d'employer les bons mots, parce que mettre les voiles, c'est pas hyper à la mode en ce moment. Hein, donc faut faire très attention au vocabulaire qu'on utilise.
Voilà. Ouais, en tout cas, je me l'interdis pas.
Ah non, mais je vous l'interdis pas non plus. Hein, je préviens juste, parce qu'après, il faudrait pas qu'il y ait des confusions, surtout avec le retour de Zemmour et tout.
Ah, c'est marrant que vous disiez ça.
Pourquoi c'est marrant de parler de Zemmour?
J'ai passé beaucoup de temps avec lui.
Ah bon?
Mec, l'outing.
Comment ça, vous avez passé du temps avec Zemmour? Et alors?
Très doux et très sauvage à la fois.
Sans déconner. Et vous, Vincent, vous l'avez rencontré, Zemmour?
Il y a une vraie tentative.
D'accord, merde, c'est quoi ce bordel? Alors celle-là, je m'y attendais pas. Mais une tentative qui a réussi?
Je me suis désisté deux fois parce que ça me faisait peur.
Bah tu m'étonnes. Attends, là, je suis sur le cul. Hein.
Je ne me reconnais pas moi-même. Hein.
Non, mais on se juge pas, Vincent, on se juge pas. En tout cas, Scoop, Reda Kateb est ami avec Éric Zemmour.
Donc... Non, il doit y avoir une erreur. Il faudrait vérifier ça.
Comment ça, bah si, on parle d'Éric Zemmour.
Django
Zemmour, ça doit être son cousin. D'accord, pardon, d'accord, il y a eu confusion sur les prénoms. Mais vous, Vincent, vous aviez compris que je parlais d'Éric?
Oui.
Ah, d'accord, voilà. Donc, du coup, je ne sais pas quoi dire.
Je réponds ce que je veux, quoi.
Ah non, mais il n'y a pas de souci. Du coup, on va parler du film plutôt, hein, hors norme. Vincent, si vous voulez nous pitcher le film.
C'est un petit mec de quartier qui a fait du bis pendant un moment. Et...
D'accord, j'ai pas le même résumé. Et donc?
Il arrive dans un village et il voit des schtroumpfs.
Vous êtes sûr qu'on parle du même film, Vincent? Pardon, hein, mais...
Quand il y a des gens qui comprennent pas le film, ça m'énerve.
Oui, non, bah vous savez quoi, je veux pas vous énerver. Reda, un truc à rajouter?
Pas grand-chose, à vrai dire.
Eh bah, pas mieux. Allez, bonne émission.
La bande originale sur France Inter.
Tom Villa, vous pourrez trouver à Nantes ce jeudi, vendredi et samedi également pour son spectacle Les Nommés Sont.
Et dans Hors Normes, Vincent Cassel et Reda Kateb à l'affiche pour ce film, merveilleux film réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache. On parlait tout à l'heure du don de soi, c'est-à-dire de cette capacité aussi à regarder les gens avec bienveillance et à ce qu'ils vous donnent totalement tout ce qu'ils ont. Vos deux personnages sont dans un don assez incroyable, au point, on l'a dit, que le personnage de Vincent Cassel est célibataire et qu'on lui organise des chidouks. Alors moi, j'ai découvert ce mot, ça m'a beaucoup fait. Enfin voilà, c'est plein de chidouks.
Des chidours.
Des chidours, en plus, on dit comme ça. Donc des chidours, pardon. Des rendez-vous, c'est une espèce de speed dating, en fait. Enfin, c'est des coups arrangés.
Oui, c'est des rendez-vous arrangés, amoureux, des rendez-vous amoureux arrangés pour rencontrer la femme avec qui on pourra créer une famille dans un cercle religieux.
Oui, c'est ça, dans une communauté en particulier. D'ailleurs, la religion, elle est présente aussi dans le film. C'est pas un sujet en vrai, mais elle apparaît comme ça à travers la mezouza qu'on touche quand on rentre dans un espace, le voile, la kippa. Votre personnage, Reda Kateb, le dit en riant, mais on a la sensation que c'est vrai qu'il est musulman pratiquant, qu'il est marié, qu'il a 3 enfants. Donc on a finalement, ouais, on vit très bien sans que ça soit un sujet dans ce film-là.
Oui, c'est vrai. Bah, c'était une des choses qui, sur le papier, au début, pouvait faire un peu pompier. Enfin, moi, j'avais au tout début, au moment du pitch, et sans avoir rencontré Stéphane Benhamou et Daoud Tatou, dont sont inspirés nos personnages, je me disais...
Le juif et le musulman.
Voilà, ça fait un peu discoureux, il y a quelque chose. Et en fait, très très vite, en allant dans ces associations-là, justement, en voyant des kippas qui se mêlent à des voiles, à des, toutes sortes de religions, mais aussi de milieux socio-professionnels et tout ça, on s'aperçoit que c'est intéressant. Enfin, c'était de toute façon, il fallait le mettre dans le film, parce qu'aussi, ces deux personnages-là sont vraiment portés par leur foi.
C'est ça.
Et le religieux chez eux est à sa bonne place, en fait. À une place de tolérance, de don aux autres et d'abnégation. Et je pense que si ces deux personnes donnent autant, leur foi joue aussi dedans.
Ouais, moi, je me suis dit, ça ne peut pas être possible sans cette foi. Parce que vu toutes les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien pour ces enfants, pour essayer de faire en sorte qu'ils ne soient pas placés dans des endroits où on les attache, où on les bourre de médicaments parce qu'il n'y a pas assez de structures pour s'en occuper, il n'y a pas assez de personnel aussi. C'est aussi ça la problématique. Il faut nécessairement que la foi soit présente. C'est quelque chose qui vous a questionné ou pas ?
Tout type de foi après, ouais, on n'est pas forcément dans
c'est la foi en l'homme aussi, tout simplement.
C'est ce qu'on fait. Après là, on peut pas rentrer dans un. On va pas trop analyser tout ça parce que chacun est concerné par sa propre religion. Mais je crois que la foi qui les relie tous, c'est la foi en ce qu'ils font. Ouais. C'est-à-dire que tous sont là, je crois pas au nom de Dieu, mais ils sont là pour sauver et pour mettre ses enfants dans une situation où ils vont pouvoir évoluer.
Et vous avez posé la question à Stéphane Benhamou, savoir d'où lui vient cette. Mais cette envie de sauver
les
tous enfants. Ses enfants.
Non, il me dit c'est les enfants. Tout ce que je fais, c'est pour les enfants.
Ouais.
Il l'a commencé une fois, et puis deux, et puis ça c'est. Puis maintenant, c'est sa raison d'être. Et c'est les enfants avant tout.
Au détriment de sa vie à lui. Parce que ça laisse.
Ah, il n'a pas l'air si malheureux, c'est... vous savez, Stéphane. Hein, je pense que c'est d'ailleurs quand on le questionne là-dessus, et il est au contraire, il dit moi, depuis que j'ai commencé à faire ce métier,
ça le remplit.
Je suis heureux tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc c'est un mec qui, je crois, qui se plaît dans ce qu'il fait. Il n'est pas en train de faire un sacerdoce, je crois.
En fait, sa vie, c'est ça.
Sa vie, c'est ça.
Ça.
Oui. Ouais.
Et rien ne l'arrêtera.
J'ai pas l'impression, hein. Mais alors vraiment pas. Quand on le voit partir, là, au contraire, en plus, avec ce qui se passe autour du film, il vient d'avoir un agrément qui était très difficile à obtenir avant même la sortie du film. On espère que les choses vont évoluer, que ça va remettre tout ça au centre du débat. Et je crois que c'est vraiment pas le moment de s'arrêter, au contraire.
Parce que la situation ubuesque, que ce soit pour le silence des justes ou alors pour le relais aussi d'Île-de-France, c'est que les hôpitaux font appel à cette association en lui demandant s'il a de la place pour accueillir un autiste. Mais ils n'ont pas les agréments. Et quand les inspecteurs de l'IGAS passent, on leur dit que potentiellement, ils ne respectent pas les conditions. C'est complètement fou. Vous étiez au courant de cette situation avant de vous lancer dans ce film ?
La première situation absurde d'où découle tout ça, c'est qu'en France, en fait, dans l'autisme, plus le cas est lourd, plus le cas est sévère, moins vous êtes pris en charge. Ce qui est le seul exemple de prise en charge dans la santé, dans une société où voilà, si vous avez un problème au cœur, on peut tout de suite vous opérer dans les heures qui suivent, etc. Donc il y a à la base une grande méconnaissance, mais aussi cette espèce de paradoxe qui fait qu'aujourd'hui vous avez 37 000 autistes qui ne sont pas pris en charge. Donc finalement, les gens de ces associations-là, tout ce qu'ils font, c'est répondre à un besoin dans le moment. Et je pense que, comme beaucoup, ils aimeraient qu'à un moment, on n'ait plus besoin d'eux, en fait. Voilà, c'est pas... peut-être que ce travail-là a vocation à un moment à disparaître lorsque les choses seront avancées. Mais ils font ce qu'il y a à faire dans l'instant, maintenant, pour des gens qui vivent.
je tenais à vous dire que c'est un film qui fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, c'est pas le cas de tous les films. Et on peut le dire peut-être de façon exagérée sur d'autres supports, mais c'est vraiment un film dont on sort avec le sourire.
On sent différent, en tout cas.
Ouais, on est ému. On a aussi, je pense, pris conscience, même si les discours, on les a déjà entendus, on en a déjà beaucoup parlé à cette antenne avec Albert, notamment sur la non-prise en charge et l'abandon de beaucoup d'autistes en France.
Ce que Reda vient de dire, c'est qu'il y a des situations d'une très très grande détresse.
C'est ça.
Notamment, c'est bien incarné par cette maman emblématique
d'Hélène Vincent,
qui est jouée par Hélène Vincent, qui est tout à fait remarquable.
Mais je crois que c'est pas loin de ton témoignage à toi, parce que je crois que tu connais aussi les réalisateurs et tu as discuté avec eux en amont.
Nakache et Toledano m'ont fait, l'honneur de reproduire mes propos qui sont banals. Dans la bouche d'Hélène Vincent, savoir la banalité, c'est quand je serai plus là, quand nous serons plus là, ma femme et moi, qu'est-ce qu'il va devenir ? Parce que c'est un handicap très lourd. L'accueil de ces personnes est totalement insuffisant en France aujourd'hui. Reda vient de le dire. C'est des milliers d'autistes sévères qui se retrouvent à la maison, dont les parents vieillissent, dont les parents sont fatigués, dont les parents sont empêchés de travailler pour certains.
Qu'est-ce que tu évoques à ce moment-là, savoir que va-t-il devenir quand je ne serai plus là ? C'est concrètement
une question simple qu'on se pose pour tous nos enfants, qu'ils soient malades.
Et dans le désespoir, ta solution, c'est quoi ?
Handicapés ou non.
Et faut le dire.
Et voilà, c'est un point d'interrogation.
Dans le film, ça va plus loin. Dans le film, il faut le dire, ça va plus loin. C'est-à-dire que le personnage incarné par Hélène Vincent annonce clairement tellement désespérée qu'elle va mettre fin à ses jours et à celui de son enfant.
Moi, j'ai rencontré des cas de gens qui ont été poussés au désespoir pour en finir parce que leur situation est insupportable.
Alors, malgré cette scène-là qui est aussi très très dure et très difficile, c'est pour ça que j'avais commencé.
Hélène Vincent est très très drôle.
Mais elle est super. C'est pour ça que j'avais commencé.
Un gâteau à l'ananas.
C'est le running gag. J'avais commencé ma phrase comme ça en disant que c'est un film qui fait du bien, c'est un film dont on sort avec le sourire, avec une sorte de foi aussi en l'humanité, parce qu'on se dit que si ces deux personnages qui ont inspiré les vôtres existent vraiment, et on a la preuve ici avec Daoud Tatou dans ce studio, ça veut dire que tout n'est pas perdu, et ça fait un bien fou.
Ouais, enfin, faut aimer l'ananas. Enfin bref, tout n'est pas perdu pour lui, en tout cas, je l'espère. C'est Guillaume Bougou.
Ça va les amigos ?
Non, pas trop.
Bon, déjà, je voudrais m'excuser auprès de Reda Kateb et Vincent Cassel parce que j'ai pas pu voir le film. Apparemment, la projection était interdite aux Belges.
Mais non.
Parce que Léla Kadour Boudadi a qualifié publiquement de très belle initiative, qui, je cite, mériterait d'être étendue au studio de France Inter où les bouffeurs de moules commencent à nous chier dans les cartilages. Fin de citation.
Ça, c'est vrai.
Ah, ils ont dû être contents à l'heure actuelle. Hein. Vous ouvriez enfin votre cœur, Léla. Vous en avez quand même 4 pages, franchement, et mes bonnes adresses. J'ai pas vu hors norme et ça me donne envie de crever dans une moustache parce que tout le monde m'a dit que c'était incroyable. Je sais plus si c'est Fred ou Albert qui m'a dit Reda et Vincent, ils sont formidables. Pour des acteurs non professionnels. Et c'est vrai que dans la vie, Reda, il est informaticien, Vincent, il est manager de chiens de combat, tu vois. Donc, tout d'un coup, il se retrouve propulsé sur un plateau de Cinoche avec un texte, t'imagines ? Cinoche, si t'as pas les codes, c'est vraiment. Tu vois, il y a des gens sur le plateau, tu sais jamais qui est qui. T'es là, et vous êtes qui, vous, monsieur ? Ah, moi, je suis deuxième assistant en câblage électrique. Ah, et vous ? Ah, moi, je suis le réalisateur. Ah, bon, super. C'est vous qui faites les travaux, le travelling et ça. Et donc, en plus, ils sont deux, les réalisateurs ici, Toledano et Nakache. T'es là, très bien, ok, mais qui est Toledano ? Qui est Nakache ? Au moins, les frères Cohen, c'est facile. Tu te rappelles pas qui est Ethan, qui est Joël, tu peux dire ça va, Cohen. Et au moins t'es toujours dans le bon. C'est marrant d'être à côté de Vincent parce qu'on s'était croisé dans un chenil l'autre fois. Parce que il venait acheter un American Staff pour le boulot. Moi je revendais mon bichon. Je trouvais quand même un peu agressif quand il avait faim. Et Vincent, il m'avait fait toi le ciné. Il m'a dit t'y penses. J'ai dit le ciné, Vincent, le ciné. Tu sais, moi, j'en ai pas vraiment besoin du ciné, hein. C'est pas comme toi. Tu vois, moi, je touche assez les Français avec mes chroniques, hein. Les Français, ils m'écrivent, ils font me dire, Ernesto, te disperse pas, tu vois, continue à nous toucher, Ernesto, touche-nous, tu vois, touche-nous. Et je suis là, arrêtez les Français, arrêtez. Et vraiment, donc, j'avais jamais fait de ciné. J'avais même refusé tout ce qu'on m'avait, proposé, même un beau second rôle dans J'aime la plomberie, mais pas que. Le premier film de Nelly Morin en tant que réel. C'est une comédie porno avec le chien qui jouait dans Benji. Franchement, c'est direct en DVD. Mais la saison passée, ma pote, il y a ma pote Melra Bedia qui m'appelle pour me dire voilà, je fais mon film, ça me ferait vraiment plaisir que tu fasses un petit rôle dedans, quoi. Et pour le coup, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc je réponds bah, si t'as un petit rôle pour moi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas voir ça avec mon agent, comme tout le monde, et t'arrêtes de me déranger pendant que je regarde l'affaire conclue. Putain, voilà, c'est celui d'avant, tu respectes. Mais bon, j'adore Melra, du coup, je vois quand même avec mon agent, et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas d'agent. Donc, j'accepte de jouer dans le film. Et en tête, j'avais les mots de Catherine Deneuve que j'adore, qui disait quand même le cinéma, ça me casse les couilles, mais ça me paye au moins mes cours de tir. Je suis à fond, quoi. C'est ma toute première expérience ciné, sauf que dans la nuit qui précède le tournage, vraiment, je tombe malade et j'arrive sur le plateau. Dans mon nez, tu sais quoi, il y a 19 kilos de morve et une équipe de cimentiers. Oh. Franchement, et comment vous dire, déjà en temps normal, on comprend pas ce que je dis. Vraiment, donc, je salue d'ailleurs mon orthophoniste. Revenez, Nicole, ça fait depuis 2016, j'attends mon rendez-vous, vraiment. Mais là, C'est un enfer. Il y a Valérie Le Mercier sur le plateau, il y a ma copine Melha, il y a la réalisatrice, et moi j'ai de la fièvre, je parle du nez. Et ma première réplique c'est on t'a déjà dit que t'étais trop fraîche. La dernière étant, j'ai envie qu'on aille aux chiottes et que tu t'assoies sur mon visage.
Ah, mais ça va pas, non?
Bon, ben je crois qu'il faut m'avoir fait un BTS voyance pour savoir ce qu'il est advenu de ma prestation. Hein. Ça commence par couper, ça finit au montage. Hein. Et je crois que c'est ce qui pourrait arriver de mieux à ce film qui s'appellera Forte. Et je lui souhaite autant de succès qu'à Ordon. Allez, bonne émission, les amis.
Bravo, Guillermo. France Inter.
J'espère qu'on pourra récupérer les rushs. Ça, ça nous intéresse, les rushs.
Le cinéma, ouais. Ça me casse les couilles, mais ça paye mes cours de tir. On n'aura jamais Catherine Deneuve dans cette émission.
Ah ouais, jamais.
Au contraire.
Vous avez raison.
En revanche, on a Reda Kateb et Vincent Cassel pour un très très beau film hors norme qui sort donc demain en salle. Un nouveau coup de maître du duo Eric Toledano et Olivier Nakache. Toujours sur cette histoire de ces deux hommes qui sont à la tête d'associations, qui se démènent pour essayer de trouver des solutions pour les autistes, les cas d'autistes sévères en France qui ne sont hélas pas pris en charge. Et un film rayonnant, vraiment, où on sort avec la banane. Je vous avais rarement vu aussi drôle dans un film, Reda Kateb. La dernière fois, c'était peut-être dans le film de Philippe Rebaud et de
Romane
Boringer, L'amour flou, où j'avais trouvé très très drôle avec votre petit chien. D'ailleurs, je n'ai pas vu aujourd'hui le chien.
Oui, il vous embrasse.
Ah oui, d'accord, ok.
Il me l'échouille.
Merci beaucoup. Voilà, une dimension comique aussi dans un film, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu dans ce...
Oui, en tout cas,
ce registre.
C'est vrai qu'on essaye toujours, en tout cas j'essaye toujours de ne pas me répéter et puis d'aller vers des choses nouvelles.
Ouais.
Et là, sur ce film-là, c'était vraiment génial pour moi de pouvoir jouer sur ces notes, de pouvoir, justement, en abordant un tel sujet, être aussi sur des notes de légèreté et tout, c'était extraordinaire. Au début du tournage, j'ai un voisin dans mon quartier qui m'a demandé une photo et puis j'ai dû faire un beau sourire sur la photo. Il m'a dit, mais... tu souris en fait. Pourquoi ils font toujours faire la gueule dans les films.
C'est vrai. La représentation que les gens ont de vous, c'est ça?
Non, pas tous les gens, mais certains. En tout cas, à ce moment-là, quand j'ai raconté ça à Olivier, tous les deux jours, il me disait « Allez, cette prise, elle est pour ton voisin. » J'ai eu beaucoup de plaisir.
Et vous, Vincent, dans cette tonalité aussi, même si a priori comme ça, votre personnage est peut-être pas celui qui vanne le plus l'autre, parce qu'il y a quand même j'ai l'impression que le personnage de Reda Kateb est toujours un peu sur votre dos à se moquer un peu de vous, mais quand même.
Il est pince sans rire.
Ouais, il y a ce sourire en permanence chez vous.
Oui, enfin, c'est pas un sourire c'est un sourire de bonté, je crois qu'il a avant tout.
C'est un joli sourire.
Je sais pas très bien quoi dire. Je sens bien que je suis plus gentil que d'habitude dans ce film-là, hein, ça c'est sûr.
Ouais, c'est ça qu'il te disait d'ailleurs.
Ouais, gentil, il me disait gentil,
donc,
Vincent.
Pas, gentil.
Dès que je commence à m'énerver, gentil, Vincent. Gentil. Après, il me donnait un sucre.
Non, mais vous avez quelque chose.
C'est un verre de chien.
Je sais pas si c'est gentil, mais il y a quelque chose de très tendre en fait. Et c'est pas nécessairement, là encore, les rôles dans lesquels on a pu vous voir le plus évoluer.
Je m'en rends bien compte.
Ça vous va très très bien.
Merci beaucoup d'abord. Je pensais bien aller faire une comédie avec Nakache et Toledano, et puis tout d'un coup ils m'ont emmené dans cet endroit, j'ai vu tous ces enfants, je suis sorti de là bouleversé, genre littéralement en train de pleurer. J'ai dit, mais vous êtes sûr, vous voulez faire une comédie? Ils m'ont dit, ne t'inquiète pas, tu verras. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à voir en fait à quel moment pouvait se loger la comédie. Mais même pendant le film, pendant qu'on tournait, je leur posais la question, je dis, mais vous êtes sûr que c'est droit?
Vous avez vraiment ce doute là?
Oui, parce qu'en fait, on ne fait rien pour être drôle dans le film. En fait, c'est vraiment la situation.
Ouais.
C'est pour ça que j'aime le film aussi. C'est parce qu'on dirait une comédie italienne des années 60. Ouais. C'est social, c'est drôle, c'est triste, c'est humain. C'est un peu tout ce que devrait être un film, en fait.
Ouais.
L'humour vient dans l'action, toujours. C'est pas au forceps, c'est pas forcé. Ça vient dans le fil de l'action, donc c'est très très fluide.
Puis on
c'est
en
pour
a
ça
besoin.
Que c'est émouvant et très drôle aussi. Mmh. Pour ça, c'est un film formidable, parce que l'enjeu était
difficile en plus.
Très difficile.
Et puis il y a cette scène d'ouverture, j'ai pas parlé de ça parce que tout de suite, c'est quand on parlait de réel, de réalité, elle vous plonge directement dans la problématique. C'est-à-dire que il y a pas de discours, il y a pas de fioriture, on perd pas de temps, il y a rien d'ornemental dans ce film, on est directement plongé dans ce qui se passe au quotidien.
Moi j'avais des appréhensions que j'évoquais tout à l'heure, j'avais peur de l'esthétisation ou que ce soit édulcoré, et dès les premières images, j'ai été saisi, j'ai été bouleversé parce que j'ai senti la vérité. Et j'ai senti l'intention, et j'ai senti la justesse du... Je savais que la suite ne me décevrait pas.
Ouais.
Dès le début, et qu'on connaisse ce problème ou qu'on ne le connaisse pas, on est saisi, et en ce sens-là, c'est une grande réussite, parce qu'il chope le spectateur, et il ne le lâche plus jusqu'à la fin, dans la drôlerie et dans l'émotion. Donc c'est un film très très réussi, je répète une fois de plus, pour ceux qui ne seraient pas concernés par le problème.
Et la musique y est aussi pour beaucoup. Qu'est-ce que ça a changé dans votre regard ou dans votre envie de vous impliquer, je sais pas, dans, sur ce sujet-là, de, d'être, parce que tout d'un coup vous êtes en première ligne aussi pour ce film, j'imagine que ça va faire bouger les lignes, que ça va faire discuter, que ça va susciter des réactions et des discussions, j'espère au niveau politique, Reda.
Nous on fait ce film, ouais. on l'amène aux gens et, et on espère que les regards vont bouger suite à ce film-là. Je pense que c'est déjà une grande chose de passer pour nous de cette chose, ou pour nous les autistes, c'était Rain Man, ou de ouais. cette méconnaissance totale de ce monde-là.
Bah souvent les cas d'Asperger où on a affaire à des enfants ou des adolescents qui ont des capacités intellectuelles bah, incroyables.
Des performances.
Donc, là, on parle d'autisme sévère avec d'absence de communication verbale, avec une violence qui doit jaillir à un moment où elle doit jaillir sans qu'on puisse
anticiper.
Qui est une
manière pour eux de communiquer,
absolument.
Mais une pauvre manière.
C'est non verbal, voilà. Tout
c'est
non verbal.
Du coup, le fait de passer du temps avec ces gens, le temps d'un film, le temps de ce moment partagé dans la salle de cinéma, que ce soit entre spectateurs, mais avec ces autistes qui sont différents, je pense que les gens ne les regarderont plus de la même manière quand ils passeront dans un parc, ou quand vous pouvez régulièrement croiser des groupes de jeunes où vous avez des référents avec des autistes, et je pense que le regard ne sera pas le même. C'est déjà beaucoup. Après, pour ce qui est de notre implication, nous on est acteurs, on a joué dans un film. Et j'ai, il y a quelques jours, accepté d'être le parrain du Relais Île-de-France, l'association de Daoud Tatou. J'en profite pour passer la balle à Daoud qui vient de nous rejoindre.
On meurt d'envie de vous entendre aussi depuis le début de l'émission. Daoud Tatou, bonjour, soyez le bienvenu. Ouais,
bonjour, merci de me recevoir, c'est très gentil.
Vous êtes le fondateur et responsable donc, du Relais Île-de-France. C'est vous qui avez inspiré, on l'a dit, le rôle de Malik, joué par Reda dans le film Hors Normes, qui est en salle à partir de demain. Je donne tout de suite le site internet, on va le répéter aussi, c'est lerelaisidf.com. Voilà.
C'est ça.
Donc on peut trouver à la fois toutes les informations, j'imagine qu'on peut aussi donner, on peut voilà, apporter...
Oui, il y a toutes les informations sur le site, hein, sur ce qui on est, ce qu'on fait, et éventuellement aussi faire des dons, puisque vous parlez de données, c'est aussi possible sur le site.
Justement, en deux mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer la vocation du Relais Île-de-France ?
Alors, encore merci de me recevoir. Le Relais Île-de-France, à la base, prenait des personnes en situation d'autisme le week-end, et on a monté ça avec le docteur Moïse Assouline, à qui je dois très 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 belle paire de ma vie, en tout cas en termes de formation. Et le relais s'est monté avec ces jeunes qui étaient hors structure, c'est-à-dire au début, c'était de soulager les parents pendant les week-ends, puisque quand vous avez un enfant autiste, pendant les week-ends, vous avez soit la possibilité de l'accompagner quand il n'y a pas trop de troubles, des fois ça devient compliqué, donc on appelle les pompiers, et comme les pompiers ne gèrent pas ça, c'est l'enfermement. Le but était de soulager les familles.
C'est-à-dire l'enfermement.
Ben, c'est l'hôpital psychiatrique, par défaut, quand les familles ne peuvent pas durant les week-ends. Donc le but, c'était de faciliter à ce que papa et maman s'occupent des autres frères et sœurs, ou à ce que papa et maman restent ensemble pendant les week-ends, et éviter l'enfermement pour les cas les plus complexes.
Qu'est-ce qui leur arrive à l'hôpital psychiatrique concrètement, ça veut dire quoi ?
Concrètement, l'hôpital psychiatrique, c'est pas un lieu de soins, donc ils sont contenus, ces jeunes-là. Avant, on appelait ça une chambre capitonnée, aujourd'hui on appelle ça une salle d'hypostimulation, on a changé le terme, c'est un peu plus propre et plus beau, mais ça reste la même
problématique. La réalité est la même,
ou sinon c'est une camisole chimique dans le meilleur des cas. Donc le but, c'était de soulager en fait les familles. Et puis après, on est arrivé sur un autre niveau qui s'appelle les hors-structures. Moi, je me suis aperçu, je travaillais à Adam Shelton à cette époque-là avec Howard Buten, qui est plus connu sous le clown Buffo. Voilà, qui a écrit le best-seller « Quand j'avais 5 ans, je m'étais tué ». Donc c'est aussi quelqu'un qui m'a formé dans mon parcours de vie. Et avec le docteur Assouline, je me suis aperçu qu'il y avait un versant que je connaissais pas, c'était les hors-structures. C'est-à-dire que pendant que moi je travaillais, il y en avait qui étaient à la maison. Et quand ils n'étaient pas à la maison parce qu'on ne pouvait pas les contenir, ben ils étaient justement dans ces fameux hôpitaux psychiatriques. Et j'ai la chance d'habiter dans un quartier populaire, anciennement dans le 91, très précisément collé au Tarteret, qui est une cité que tout le monde connaît, où il y a beaucoup de monde qui faisait pas grand-chose et qui avait envie de faire plein de choses. Et ben du coup, j'ai ouvert cette porte à mes copains pour pouvoir accompagner ces jeunes-là.
C'est la deuxième vocation du Relais Île-de-France, c'est la réinsertion aussi sociale et professionnelle de ces jeunes qu'on voit très bien dans le film, qui apportent aussi un vent de fraîcheur, de joie, et puis qui cherchent aussi une place dans la société, où on leur offre en tout cas la possibilité de s'en faire une.
Tout à fait.
Ouais,
tout
alors qu'on leur offre pas grand-chose souvent à côté.
Oui, et puis ils sont plutôt stigmatisé, bon, les jeunes de cité, on sait ce que c'est, hein. C'est pour la plupart des gens, c'est des voyous, des gens qui tiennent les murs, qui servent à rien, qui font du business. Or là, nous, on pense pas, absolument pas comme ça, parce qu'il y a plein d'énergie, très très belle énergie, et c'est ce que disaient Vincent et Reda tout à l'heure avec Albert. Si on fait confiance aux gens, moi, il y a des gens qui m'ont fait confiance, hein, notamment le docteur Assouline, et puis d'autres personnes, comme la fondation L'Élan Retrouvé, puisqu'aujourd'hui, le relais est devenu une institution pour la partie parisienne. Quand on fait confiance aux gens et qu'on va chercher le meilleur d'eux, finalement, on s'aperçoit que ces gens-là sont très 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 bons. Mais quand je vous dis très bons, c'est vraiment très bon.
Avant de vous demander ce que vous avez pensé du film, votre parcours, moi, il m'intéresse.
Ah, vous
avant,
allez rire.
Avant d'être. Mais oui, mais c'est pour ça, parce que vous venez de.
Refermons le dossier tout de suite.
Ouais. Ouais, vous venez de suggérer que, bon, voilà, votre chemin de vie aussi, il a été. Non,
moi, j'ai un chemin de vie, ouais, qui est c'est marrant pour moi, en tout cas. C'est qu'anciennement, j'étais un jeune rappeur qui faisait du rap, comme tous les mecs de cité, hein, finalement. Et puis, je vous dis, j'ai eu la chance, mais vraiment, de rencontrer le docteur Assouline, qui lui était médecin psychiatre, hôpital de Jourdanthony, et m'a donné cette opportunité de pouvoir faire ça avec des autistes. Alors, forcément, quand j'en parlais avec mes copains, il me dit, toi, t'es un malade, tu vas faire du rap avec des autistes, mais sauf que les autistes, c'est pas Tupac, c'était leur donner la possibilité d'avoir de la culture comme monsieur et madame tout le monde. Et puis après, je me suis intéressé dans mon parcours. Voilà, j'ai fait un remplacement, deux remplacements, j'ai passé un diplôme, puis un autre diplôme, et puis je me suis intéressé sur ces cas complexes. Parce que j'étais fasciné par. En fait, je comprenais pas comment on pouvait passer d'un état très calme à un état vraiment très nerveux, c'est-à-dire des gens qui éclatent tout, qui se font mal.
On le voit dans le film, ouais.
Voilà, et là, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé. C'est pour ça aussi que je suis passionné par ce travail-là, c'est que je comprends toujours pas comment on arrive. Alors, je sais qu'il y a. Maintenant, j'ai compris un certain nombre de choses. Il y a des problèmes sensoriels, il y a énormément de choses, mais comment tout ça, ce mécanisme-là, la rencontre avec les gens, c'est des choses qui m'ont intéressé. Et donc, du coup, je me suis passionné pour ça et je suis rentré après dans ce domaine-là.
C'est ce qui est montré dans le film, c'est-à-dire que vos deux personnages avouent très régulièrement qu'ils ne savent pas, parce qu'on sait peu de choses finalement sur l'autisme, on ne sait pas exactement pourquoi une crise est déclenchée. Alors, on a des indicateurs, c'est on ça. Peut se dire qu'éventuellement il n'apprécie pas d'être touché ou brusqué à ce moment-là, qu'il doit décider de où il doit aller, mais il n'y a pas de protocole établi. Ça veut dire que tout ça, c'est très expérimental au sens meilleur du terme, à savoir, on doit faire en fonction de chaque cas.
En fait, nous, on fait en fonction de ce que nous donne le jeune. Oui. Et notre travail, alors, au silence des justes et au relais, parce qu'on a quand même des cas complexes, c'est d'aller trouver des portes. Nous, ce qu'on veut, c'est chercher la porte de communication. Vous avez d'autres institutions qui sont établies, hein, les hôpitaux de jour, les IME, toutes ces institutions d'État. Eux, ils sont plutôt dans l'éducatif, le cognitif. Nous, on est en amont de ça. C'est-à-dire, on accueille en urgence. On a quelqu'un qui est complètement, on va dire, éclaté ou un peu déstructuré. Et le but, c'est d'aller voir comment on peut créer, finalement, ce truc. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est parce que, en fait, on n'a pas de protocole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autiste qui ressemble à un autre, et y compris dans les cas complexes. À la fois.
Alors, qu'est-ce que ça vous a fait à vous, Daoud Tatou, de vous voir
à l'écran?
En partie, parce qu'on a dit que c'était pas un biopic, mais en tout cas que c'était clairement inspiré de votre histoire aussi, de ce que vous faites au quotidien, d'être interprété par Reda Kateb, de vous voir, de voir cette histoire, de voir cette très belle histoire d'amitié aussi avec Stéphane Benhamou.
Bien sûr. C'est une histoire d'amitié qui dure depuis plus de 20 ans. Alors, moi, ce que ça m'a fait, très honnêtement, c'est que je suis très content qu'on mette le doigt sur les cas complexes. Parce qu'on parle d'autistes en France, mais il y a tout un no man's land, tout un groupe d'autistes dont on n'a jamais parlé, qui est finalement ces cas-là, qui sont soit à l'hôpital psychiatrique, soit à la maison par défaut, avec ce que disait tout à l'heure Albert, avec énormément de divorces, avec des choses qui sont très compliquées,
très
dans la fratrie,
dans la
famille, ce genre de choses. Donc moi, à titre personnel, je suis enfin content qu'on a pu y mettre, qu'on ait mis le doigt dedans sur les manques que l'État a, parce que l'État est aussi au courant de ça, c'est-à-dire qu'ils ont pris la teneur de ça. Hein. Vincent disait que Stéphane a eu l'agrément effectivement pendant le film,
pendant
et nous
le tournage,
on est plus que très contents de ça. Après, on espère que ça va bouger, et au-delà des limites, c'est-à-dire qu'au-delà des lignes, on espère que enfin le sujet des cas complexes vont être mis en avant, qu'on va avoir des enveloppes supplémentaires, qu'on va avoir des formations spécifiques pour les cas complexes, que l'État va comprendre que c'est d'abord du 1 pour 1 et pas du 1 pour 3 ou 1 pour 4, comme dans nos institutions spécialisées. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Après, bien évidemment, c'est toujours plaisant qu'on parle de notre histoire, parce que en général, on
ça
parle...
Ça vous a touché de
oui,
vous
alors, voir dans il disait tout à l'heure, Reda, qu'il aurait aimé grossir, c'était un bon truc, mais je suis un peu plus gros que lui, je comprends pas pourquoi Eric t'a pas demandé de grossir.
C'est ça, voilà, Reda, vous êtes pas vraiment plongé dans le rôle. Hein,
ouais, tu aurais pu prendre quelques kilos, Reda.
Voilà. Et vous êtes content que ce soit Reda Kateb, vous auriez préféré Vincent Cassel.
C'est-à-dire que si on parle de grosseur, il aurait pu grossir et maigrir, Vincent, c'est la capacité qu'il a. Mais bon, non, Reda, ça l'a très bien fait.
Ça l'a fait très bien.
Je vais pas m'embrouiller avec Reda.
Il valide. J'ai une question peut-être un peu technique, mais quand dans le film on voit justement les hôpitaux appeler Stéphane, le personnage de Vincent Cassel, demandant, implorant presque, parce que la réplique la plus récurrente de votre personnage, c'est on va trouver une solution, quoi, en gros. Alors que le pauvre, il n'en a pas, mais il va en improviser une. Que les hôpitaux l'appellent pour lui confier un autiste. Et on parle aussi des difficultés financières, parce que ça aussi, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Comment est-ce que ça fonctionne? ça veut dire que les familles qui confient des enfants à Stéphane, pour le coup, bénéficient quoi d'une subvention d'État qu'elle verse, alors que l'État lui-même, et on le voit dans l'inspection de l'IGAS, ne valide pas les méthodes.
C'est exactement ça.
C'est dingue.
Vous avez tout résumé. Oui. C'est-à-dire que les hôpitaux et les juges demandent à Stéphane de prendre en urgence des jeunes. Alors pourquoi ? Ben parce qu'il n'y a pas de place, hein. C'est ce que disait tout à l'heure Reda, on manque de 37 000 places. Pour les derniers chiffres, ça se balade entre 37 000 et un peu plus. Donc nous, notre travail, c'est de répondre à l'urgence, tout de suite. Donc on prend d'abord le jeune et après on voit l'aspect administratif. Et quand l'aspect administratif, on y arrive, ben, du coup, ça commence à bloquer. Ça, c'est pour le silence des justes. Pour le relais, c'est un autre format, mais c'est exactement la même chose. Mm-hmm. On prend le jeune en urgence, on voit après les conventions, on établit un devis avec la famille et après, on cherche les sous. Soit ça passe par les MDPH, soit ça passe par le département, et là, on rentre dans un labyrinthe.
MDPH, c'est Maison départementale du handicap, qui définit les aides, ça s'appelle la PCH, les prestations compensatoires du handicap. Pour tous les handicaps, il y a des PCH, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les familles doivent se battre comme des chiens pour obtenir des PCH dignes de ce nom, et les gens qui n'ont pas le savoir-faire, qui sont démunis face aux administrations, parfois sont lésés, hélas.
Et toutes ces abréviations, il en est question dans le film, que ça donne lieu à une
très
scène aussi très amusante, où il y a une sorte d'interro surprise, où on affronte les entre guillemets les deux associations, tous les jeunes des deux associations, pour voir qui maîtrise le mieux toutes ces abréviations. Ça donne aussi un sentiment de folie, c'est-à-dire qu'on se perd dans tout un système alors qu'il est juste question d'individus, de prise en charge d'individus. Je crois que vous connaissez aussi très très bien tous les deux, Albert et Daoud Tatou.
Oui, mais je voulais rendre hommage à Daoud parce qu'avec Stéphane Benhamous, ce sont les premiers qui nous ont tendu la main, à ma femme et moi, et à mon fils, évidemment, dans une situation totalement désespérée. D'abord, Stéphane Benhamou, donc je garde un souvenir impérissable, une reconnaissance immense, et je remercie Vincent d'avoir interprété de manière aussi humaine le personnage de Stéphane Benhamou, avec une scène extraordinaire, notamment face aux inspecteurs de l'IGAS. Ouais. C'est une des scènes du film, et il y a les scènes avec Reda moins dramatiques que celles que j'évoque, face aux jeunes qu'il est en train de formés, qui arrivent avec leurs fautes d'orthographe, leurs petites escroqueries pour justifier des absences indues, et ça c'est très très drôle. Et Daoud est aussi un de ceux qui nous a tendu la main à un moment, dans des moments très très difficiles. Il faut savoir qu'ils se sont battus contre vents et marées pour arriver à faire ce qu'ils font.
Ouais. Daoud Tatou, on voit dans le film, en tout cas, le personnage de Reda Kateb, sait s'y prendre avec les jeunes. Il sait leur parler, il sait leur mettre les bons coups d'électrochoc au bon moment. Ça, c'est tiré aussi...
Mais il tient leur langage aussi.
Ouais, ça, c'est tiré aussi de votre expérience. On voit, par exemple, que le mot kiffer, enfin, le verbe kiffer est employé donc à toutes les sauces.
Toutes les sauces. Bah là, je suis avec vous, je kiffe, là, par exemple. Ouais, là,
mais nous, on kiffe aussi à mort, en fait. David. Mais ça aussi, c'est tiré de votre expérience. Vous êtes allé sur le tournage, vous êtes allé voir... Oui. Reda, vous ne vous a pas lâché la grappe pendant un certain temps. Comment ça s'est passé tous les deux? Parce qu'il faut vous entendre aussi un peu.
On s'est rencontrés. Reda est venu au relais. En plus, j'ai eu la chance d'inviter Reda au voyage parce qu'on a d'autres missions à l'étranger.
Au Maroc notamment.
Voilà, sur des personnes en situation d'autisme au Maroc avec une super ONG qui s'appelle Oma Charity, qui fait un gros travail parce que là-bas aussi il y a énormément de problèmes, à savoir qu'il y a rien du tout. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Reda dans plusieurs univers, et c'est vrai que bon, Reda, pour lui, c'était pas... Enfin, j'ai pas trouvé que c'était compliqué pour Reda de faire Daoud. D'abord parce qu'il connaît très bien les jeunes de quartier.
Alors, vous parlez de vous, la troisième personne, on est d'accord.
Voilà, c'est ça.
Tu sens drôle, Malindo.
Je suis schizophrène.
Exactement.
Sur grand écran, demain, hors norme.
Voilà, moi, j'ai pas trouvé ça difficile pour lui, et effectivement... cette histoire d'accompagner les jeunes et de parler comme eux. Moi, je suis un jeune de quartier, donc j'ai pas de difficulté. Dans l'accompagnement, on est dans la vérité de ce qu'on est, des mots qu'on a à se dire et aussi des corrections à faire, parce qu'on est dans un cadre de travail. On forme les jeunes pour qu'ils aient des diplômes d'État après et qu'ils soient directement intégrés dans le réseau avec des vrais diplômes d'État. Et par ça, effectivement, ça passe par des coups d'électrochoc pour avancer. Mais
sans complaisance.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup, Daoud Tatou. Je rappelle, le relais Île-de-France, pour tout don, c'est sur le site internet lerelaisidf.com. Je rappelle aussi le silence des justes de Stéphane Benhamou. Pas de jaloux, c'est important. Merci d'avoir été avec nous. Vous applaudis.
Merci
beaucoup. Merci Daoud.
Donc pendant cela, Tanguy Pastureau est venu nous rendre visite, ce gentil Tanguy. Et merci. Tanguy, il paraît que le Qatar est un pays formidable.
Ah bah oui, mieux que le nôtre, parce que nous, on n'a rien inventé depuis le Minitel et les syphilis. Mais le Qatar, qui est une nation jeune, avec plus de blé que dans le cochon de Bernard Arnault, il crée, vous savez ce que c'est leur dernière invention ?
Non, dites-moi.
Le trottoir climatisé.
Oh, toute la lumière sur le trottoir climatisé, après les infos.
Retour de la bande originale, BO de vacances Sonagui avec Albert Albou.
Bonjour.
Tom Villa.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Guillaume Guise était dans le coin, il va revenir, j'espère. Tanguy, on vous retrouve dans une poignée de minutes. Et bien sûr, à mes côtés, Leïla Kadour, Mounadi.
Salut Daniel Morin, et nos invités sont Reda Kateb et Vincent Cassel. Oui. Pour un très beau film, hors norme parce que l'histoire qui est racontée est incroyable, hors norme parce que l'engagement des personnages que vous incarnez est folle, hors norme aussi parce que la normalité, c'est comme ça qu'on définit dans la société, les gens dits normaux, des gens qui ne sont pas normaux. En l'occurrence, là, il s'agit de cas d'autisme sévère qui ne sont pas pris en compte, qui ne sont pas suffisamment pris en charge en tout cas, et on laisse nombre de familles seules avec ça, mais c'est une comédie réalisée par Nakache Toledano. Faites confiance à cette marque de fabrique, cette capacité à aborder des sujets de société, des sujets importants, mais tout en vous donnant envie d'aimer la vie, de sourire et d'être enthousiaste. Et c'est ce que vous transmettez très très bien tous les deux, Reda Kateb et Vincent Cassel, dans l'incarnation de vos personnages. Et c'est un bonheur de vous avoir vraiment aujourd'hui. On est très fiers, nous aussi, de pouvoir parler de ce film dans la bande originale. Que vous soyez venus nous voir, nous. Voilà, donc c'est en salle à partir
et pas les
de
autres,
demain.
Et pas les autres.
Non, si, les autres, mais non, mais on est très,
nous,
on est
dans, aller voir les autres,
on est dans le partage, voilà, mais on s'en fout, mais on est content surtout qu'ils soient venus nous voir, nous, voilà, c'est ça. Voir, pendant cette semaine, un peu de vacances où j'espère vous aurez le temps, vous qui nous écoutez, de prendre un peu le temps d'aller au cinéma et d'aller voir ce très beau film hors norme. On parlait tout à l'heure de la fierté, que vous ressentiez. J'imagine que vous avez montré le film aussi autour de vous, à vos proches. Ça a été quoi leur réaction? Parce que il y a quelque chose de, je trouve, de très particulier dans votre filmographie, à tous les deux, avec ce film-là, dans un rapport hyper sensible qui, pour moi, est assez nouveau. J'ai adoré vous découvrir comme ça.
Moi, je me souviens d'un ami que vous avez déjà reçu dans cette émission, qui s'appelle Philippe Rebaud.
Qu'on reçoit bientôt, là, jeudi, il est avec nous.
Jeudi. Comme un frère, et qui était venu à une projection du film en juin. Et j'étais assis à côté de lui, j'avais revu le film après la projection qu'on avait faite à Cannes, et il était en larmes à la fin, et il me disait, mais... La bonté, ça fait chialer. Et ça m'est resté parce que je crois que, ouais, justement, dans cette chose où on passe du rire aux larmes et tout ça, c'est on est tout sauf dans quelque chose d'apitoiement ou de commisération, etc. Et on le voit à la fin des projections, les gens sont debout dans les salles, pas seulement pour nous dire merci et nous applaudir, ce qu'on appelle les standing ovations, mais j'ai l'impression que à la fin du film, les gens ont envie de se lever. Il y a quelque chose de très puissant.
Le collectif, ouais.
Et
je quand c'est fini, ils veulent partir, oui, c'est normal.
C'est le petit côté d'Anne.
C'est aussi pour ça.
Moi, je trouve ça vraiment courageux de se lancer là-dedans devant Daniel.
Et vous, Vincent, parce que c'est pareil, quand je vous ai vu ce matin, vraiment, pour dire la vérité, j'ai eu un élan, c'est-à-dire j'ai eu envie de vous embrasser.
Non, mais
attends.
Non, mais c'est pas pour ça.
Tout d'un coup.
Il y a ma sœur dehors.
Non, mais il y a une forme de tendresse qui se dégage aussi de votre personnage. On vous a reçu plusieurs fois à ce micro, je vous ai toujours serré la main de façon très cordiale.
Et mais... là, vous m'avez fait la bise.
Ouais.
Donc c'est pour ça qu'il faut pas jouer des rôles. de gentil trop souvent, parce que sinon les gens vous sautent dessus.
Ouais.
Des gens. Quand on fait des méchants, je fais oh là là. Ne lui demande pas de photos, il est dangereux.
De lui,
il est beau, mais il fait peur.
Et ben il y en a un autre qui fait peur autour de cette table, Tanguy Pastureau. Pardon, Tanguy, mais c'est sorti comme ça.
Vous êtes beau gosse, mais ça ne va pas vous empêcher de nous parler du Qatar.
Oui, j'adore ce pays. À vrai dire, si Jean-Yves Le Drian me proposait d'échanger ma nationalité française contre les Qataris, bon, déjà, je lui demanderais s'il va bien, parce qu'il fait en permanence la tête de Mamie Rock, la grand-mère de Laetitia Hallyday, quand elle apprend qu'elle doit filer un peu du blé qu'elle a planqué dans ses bas de contention à David et Laura. Mais ensuite, je lui dirais banco, mon Jeannot, parce que tout est plus beau au Qatar. Il y a du soleil, les plages sont top, tous les 10 mètres, il y a une boutique Fendi, pas un franc prix. Si bien que là-bas, les gens mangent des lunettes et des sacs. Et il fait tellement chaud que les pigeons, ces oiseaux qui à Paris se vident sur nous. Nous sommes les WC des pigeons. Entre eux, ils nous surnomment Jacob Delafont. Bah, au Qatar, les pigeons tombent du ciel directement rôtis. Pour peu que Dieu au-dessus fasse des frites, si on en laisse tomber 2-3, votre poste-déj vous arrive droit dans le gosier. Et puis, au Qatar, on n'est pas là à se prendre la tête. Il n'y a pas de polémique sur le voile. Tout le monde le porte. C'est le choix qu'on nous offre qui nous rend névrosés. Hier, je suis allé au rayon slip des Galeries Lafayette. Il y avait 60 modèles de slip. Je me suis mis à pleurer. J'ai hurlé, il n'y a pas un mal alpha dans votre boutique de con qui arrive à imposer le slip unique. Et ce matin, au sortir de l'HP, je me sentais un peu mieux. Pareil, au Qatar, le langage c'est simple. Vous dites, puis-je dire du mal de l'émir? On répond non. Puis-je dire du bien de l'émir? On répond oui. Le dictionnaire des synonymes fait une page. Ribéry au Qatar, c'est Bernard Pivot. Et puis, l'émir, contrairement à nous, il se bouge. Tenez la canicule. Nous, l'été, quand il fait 40 à Paris, vous croyez qu'Anne Hidalgo nous offrirait une petite bouteille de cristalline? Hein, ou même, si elle a peur de polluer, qu'elle nous soufflerait au visage pour nous rafraîchir après avoir pris une pastille Vichy quand même? Non, elle s'en fout de nous. Et on sue comme des porcs. Je me souviens vous avoir croisé fin août à Inter, Daniel, la barbe trempée. Je vous ai dit, quoi? Vous faites des cunilingus au travail maintenant? Vous m'avez répondu pas du tout. Personne n'a voulu. C'est juste que je n'ai pas de clim. Hein. Alors qu'au Qatar, vous savez ce qu'ils font? Ils climatisent les rues. Oui, les rues. Ces espaces atroces remplis d'inconnus et bordés de boutiques Yves Rocher dès qu'elles s'échappent, un mélange d'odeurs de lavande et de musc, comme si l'ourson Cajoline s'était mis au sport. Parce qu'il faut savoir qu'à cause du réchauffement, parfois il fait 46 degrés au Qatar. Chez nous, Evelyne Delia, au-delà de 38, elle prend un billet d'avion pour le Grand Nord, à côté de l'igloo de Ségolène Royal, celui où il y a écrit « Je suis absente parce que j'en branle pas une sur la porte ». Un 46 degrés, ça veut dire que les gens fondent. Vous posez Gérard Larcher sur un banc, vous revenez, c'est Lily Rose Depp. Hein, heureusement qu'ils font pas Pâques, parce que les œufs dans le jardin, il faudrait que le gosse les trouve en 4 secondes s'il veut éviter la soupe de cloche. Donc l'émir a consulté le compte bancaire du pays, une fenêtre est apparue avec écrit « Yes, papa, il te reste encore 1600 milliards à claquer d'ici de suite hein, ». Chez nous, Bruno Le Maire, quand il trouve un billet de 10 balles dans une veste qu'il n'avait pas mise depuis longtemps, il se met à crier « C'est bon, le pays repart ». Et l'émir a décidé quoi? De climatiser l'extérieur.
Ouais. C'est fou. Mais concrètement, ça veut dire quoi?
Eh ben c'est simple, et là c'est comme sur le plateau de Miss France, hein, on installe d'énormes clims, sauf qu'on les braque pas vers Jean-Pierre Foucault, mais vers le trottoir. Alors pour distinguer les deux, le trottoir c'est celui sur lequel on marche. Hein. Alors on peut le faire sur Jean-Pierre Foucault, mais uniquement lors de cadre, dans le cadre de soirées un peu hot. Hein. En plus il est 70 ans, alors il en fait moins puisqu'il se remet plus lentement. Donc vous êtes au Qatar, vous avez chaud, et là un vent à 17 degrés vous rafraîchit, les types enfilent des soupules belles damars et disent à leur femme bébé c'est un temps à raclette. Alors après, les écolos, ces gens pénibles hein, qui se lavent peu, ils sentent le bouc et leur propre peau morte, critiquent le Qatar. Parce que climatiser l'extérieur fait exploser la consommation d'énergie, ça pollue, et ensuite il fera encore plus chaud, donc plus de clim. Bref, c'est le Qatari qui se mord la queue. Hein, c'est comme le serpent, mais enfin, il n'y a plus de serpent au Qatar. L'atmosphère est trop brûlante, donc il sèche, et ensuite Louis Bertignac les enfile tel quel en se disant mortel les Santiago. Oui, parce que la chaleur au Qatar, disent les scientifiques, devient invivable, tout simplement. Seul Patrick Bruel est plus chaud. Hein, on parle de centaines d'ouvriers migrants morts sur les chantiers du Mondial 2022. Dans deux ans, on va jouer au foot sur des tombes. Hein, sur un groupe de 500 Népalais, des ouvriers venus dans le pays récemment, 200 sont morts de chaud. Vous imaginez si François Bayrou et Marielle de Sarnez y vont et que Sarnez clams, au modem, ils ne seront plus qu'un. Hein. En plus, le Qatar est en plein désert. Vous faites 4 km hors de la ville, vous croisez des scorpions, Jean-François Copé en train de le traverser, plus Xavier Dupont de Ligonnès qui vous dit en fait j'étais là les loulous et il est où, et il est où, et il est où le Parisien hein. Et le pays est pile dans la zone qui va prendre le plus de degrés à cause du réchauffement, donc les mecs en fait jouent leur survie et personne n'a envie que son pays soit rayé de la carte, à part les Polonais parce que le leur est trop déprimant. Donc plus ça chauffe, plus ils mettent de clim, ça chauffe encore plus, donc on refroidit encore direction le mur. Et au Qatar, Greta Thunberg la Suédoise, bah elle y va pas hein. Bah non, elle a peur d'avoir froid.
Bravo Tanguy, pas de froid. La bande originale sur France Inter. Vincent Cassel et Reda Kateb à l'affiche d'Or Norme. On a parlé tout à l'heure un peu du casting d'Hélène Vincent qui emporte tout dans les quelques scènes où on la voit dans le film. C'est une participation, mais quelle participation. Et on a évoqué rapidement Alban Ivanov. J'ai la sensation, moi personnellement, dès que je vois Alban Ivanov entrer dans une scène, bah déjà je ris avant même qu'il ait fait quoi que ce soit. C'est une espèce de pouvoir comique assez insensé. C'est le cas aussi quand on le voit jouer, quand on l'observe.
Quand on le voit rentrer dans la loge du maquillage, quand on le voit arriver pour le début de la journée.
Mais comment on explique ça? Il est quoi? Il est gauche? Qu'est-ce qui fait que...
Ça s'explique pas. Je pense qu'il a beaucoup de talent, déjà. Mm-hmm. Et puis, ça lui pose pas de problème d'avoir l'air d'un con. Voilà.
Il joue avec ça.
Tout est dit.
Je voulais signaler Catherine Mouchet aussi, qui joue le rôle d'une psychiatre de l'Usidatu. Il faut rendre hommage à l'Usidatu, qui est un service de l'hôpital de la Salpêtrière, un service de soins pour les autistes qu'on soigne nulle part. Donc il faut leur rendre hommage. Et Catherine Mouchet est tout à fait remarquable parce qu'elle joue un médecin que je connais très bien.
Oui.
Et elle apporte une humanité et une finesse incroyable à ce rôle.
Et il y a ce duo d'inspecteurs de Liga. C'est pas forcément quand on voit le film nos personnages préférés, forcément. Mais ils sont superbement incarnés par Frédéric Pierrot. C'est un bonheur de le voir aussi à l'écran. Suliane Brahim de la Comédie Française aussi, qui est une comédienne bon, hein, hors pair. Et puis il y a...
C'est pas les méchants du film.
Non, c'est pas les méchants, mais c'est-à-dire que...
Oui, oui, bien sûr, ils font leur boulot. Le mauvais rôle, mais c'est ça. Le trait n'est pas forcé comme ça aurait pu l'être.
Ouais. Ils font leur boulot, mais ils ont l'air gênés par la situation en même temps. Ils sont entre les deux.
Bah oui, c'est totalement absurde. Et ils se retrouvent là à devoir réguler quelque chose alors qu'ils voient bien le travail accompli. Il y a une scène très très belle et assez poignante où on voit aussi le désespoir de votre personnage Vincent Cassel, qui est acculé de toutes parts et qui pourtant va continuer parce qu'il lâchera jamais rien.
Mais il aura trouvé une solution.
Mais il va finir par trouver cette solution. Et puis il y a quand même aussi un jeune comédien que je ne connaissais pas, c'est Brian Mialundama, qui incarne donc ce jeune qui va au relais Île-de-France pour s'en sortir aussi, parce que je pense qu'il n'a pas d'autre horizon. Et ça aussi, c'est une découverte, c'est un jeune comédien qu'on découvre.
Ouais, 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 c'est la première fois qu'il était devant une caméra pour un film de cinéma, parce que sinon, à côté de ça, il chante, il a un groupe de rap. Il avait déjà des millions de vues sur YouTube quand il est arrivé pour les essais. Et vous avez des, mais c'est un peu à l'image du film en fait. Vous avez des
Aloïs
talents
Sauvage,
qui arrivent de partout. Aloïs Sauvage, qui est également chanteuse, qui vient du monde du cirque, de la danse, etc. Il y a une espèce de troupe comme ça qui s'est créée autour de ce film avec Eric et Olivier, dans laquelle il y avait du talent qui arrivait de partout, quoi, en fait, et tout un tas de talents bruts, de talents pas polissés, où personne n'était dans aucun statut, en fait. Voilà, c'était une troupe d'acteurs. Vraiment.
Ça veut dire que Nakash Toledano vous passe un coup de fil à la sortie pour repartir sur un prochain. Vous avez l'air tellement heureux de cette expérience que...
Je pense que oui, mais c'est-à-dire, vous savez, moi, je pense que le plus important pour faire un bon film, c'est avant tout d'avoir un metteur en scène. Alors, deux, c'est encore mieux. Mais quand on sait raconter une histoire, on peut raconter des fois des histoires simples et ça devient passionnant.
Oui.
Donc, l'adage qui dit pour un bon film, il faut un bon scénario, un bon scénario, un bon scénario, je suis pas sûr, en fait. Je crois qu'il faut surtout un bon metteur en scène.
Ouais, c'est ce qui change la donne, in fine. Ils tiennent aussi à chaque fois un sujet, je trouve. Enfin, c'est la spécificité aussi de la filmographie de Nakash Toledano, c'est cette capacité à regarder le réel, à sortir des films qui sont à chaque fois tellement contemporains qu'on se dit comment font-ils. Ça a l'air hyper simple.
Ils bossent énormément. Ouais. C'est vraiment des travailleurs acharnés. Je le vois, il n'y a rien qui est laissé. Ils ont la responsabilité d'un film entre le moment où ils ont l'idée et le moment où il va sortir en DVD ou en VOD. C'est-à-dire que vraiment, c'est leur film à 100%.
Il y en a un autre qui bosse aussi autour de cette table dans cette émission.
C'est qui ?
Bah, c'est Frédéric Sigrist.
Oui, ça va, modestement.
Mais alors, depuis le début de l'émission, on parle d'un film qui célèbre le vivre ensemble et c'est un feel-good movie. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire un contrepoint en parlant des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. C'est un lieu régi par des règles autres que dans le monde réel. Sur les réseaux sociaux, par exemple, quand quelqu'un kiffe un truc et qu'il a l'audace de le faire savoir, genre « j'aime bien les chroniques de Daniel Morin, même si c'est vrai que depuis la dialyse, c'est plus ce que c'était », ou bien « j'ai pris mon bébé en photo après l'épisiotomie, regardez comme il est mignon », en général, t'as toujours un inquisiteur numérique au doux nom de Joker65 ou Aragorn92, on peut aussi appeler ça un connard si on n'a pas la mémoire des noms, qui débarque de nulle part pour te faire comprendre que non seulement t'as eu tort de dire ça, parce qu'en vrai ton bébé, eh ben il ressemble plus à un clafoutis aux cerises qui aurait été mal digéré, mais qu'en plus une telle faute de goût devrait aboutir à une déchéance immédiate de nationalité précédant de peu la mort par décapitation. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, on a le sens de la mesure. Le net, c'est un endroit étrange où lorsqu'un mec attaque un conseil municipal avec une machette en criant « Mon Dieu est grand et moi je suis con !» on va lui créer un comité de soutien, alors que si tu dis que t'as pas aimé le film Joker, t'es obligé d'abandonner ta famille et changer de pays.
Ça
le net, on n'arrive plus à se parler. Une conversation sur le net, ça ressemble de plus en plus à un dialogue entre automobilistes un jour de départ en vacances sur l'autoroute du soleil. Sur Twitter, tu te risques à écrire « Bonjour, j'espère que vous passez une bonne journée », on va te répondre « va manger tes morts, ta mère noyée en kayak dans la Moselle ». Les gens sont tendus. Prenez Martin Scorsese et Francis Ford Coppola.
Ah.
Deux monuments du cinéma qui ont réalisé des films tels que Taxi Driver, Le Parrain et Babysitting 3. C'était le direct-to-video. Scorsese et Coppola, c'est un peu les maîtres Gims et Aya Nakamura du cinéma, si vos références sont plus du côté de Energy 12 que des Oscars. Dernièrement, ils ont eu le malheur de dire qu'ils n'aimaient pas les films de super-héros Marvel. Martin Scorsese a dit qu'humainement, ça lui apprenait rien, et Coppola, lui, a dit qu'il trouvait ça méprisable. C'est un avis respectable, qui rappelle celui du défunt Jean-Pierre Coff quand il parlait du jambon sous cellophane. Mais c'est de la merde! Bon, eh bien, ils s'en sont pas rendus compte, mais ils ont ouvert une boîte de Pandore. Parce que sur Facebook, depuis, je reçois des messages d'un gars qui m'envoie les articles compilant leurs déclarations avec écrit en majuscule, je sais pas pourquoi il fait ça, hein, sûrement pour que je lise plus fort. Alors, il en dit quoi le fan de super-héros blockbuster ? Bah, j'en dis rien, parce que je m'en fous en fait. J'imagine que les choses que j'aime et que Martin Scorsese et Francis Ford Coppola n'aiment pas, s'arrêtent pas au film Marvel. Si demain Martin Scorsese déclare qu'il trouve que la tarte au flan, ça n'a pas de goût, or j'adore la tarte au flan, il va falloir que j'arrête d'en manger. Est-ce que maintenant je vais plus pouvoir regarder des chefs-d'œuvre tels que Casino ou Shutter Island sans me dire « Ouais, enfin quand même, c'est un bon film, mais bon... » Le mec aime pas la tarte au flan. Les vrais cinéphiles, les vrais, hein, pas ceux qui ont vu les Tuches 1, 2, 3, hein, ceux qui peuvent te dire très sérieusement, à 3 grammes dans le sang, un verre de Pinot à la main dans une soirée où il y a du Dominique A qui tourne en bande-son. Ah. Tu sais quoi, Frédéric, François Truffaut, c'est un génie. C'est un génie. Et Jean-Pierre Léo, c'est quand même plus hype que Batman. Bon, et ben, ces mecs-là qui n'aimaient déjà pas Marvel avant. Bon, bah, ben, depuis les déclarations de Scorsese et Coppola, ils sont en vrille. Ils sont convaincus d'avoir recruté Neymar avant sa blessure dans leur équipe. Hein. mais les gars, j'ai envie de leur dire, calmez-vous. L'avis d'une star, c'est pas un argument. C'est un avis, même si c'est une star. J'adore les spectacles de Philippe Cobert, mais c'est pas parce qu'il vante la beauté de la corrida que je vais me mettre à applaudir des mecs en collant qui adorent jouer à la fondue bourguignonne sans attendre que le bœuf soit cuit. Et, franchement, culturellement parlant, c'est pas parce que Jean-Sébastien Bach maîtrise mieux le solfège que Booba qu'on ne peut pas aimer à la fois Booba et Jean-Sébastien Bach. Et puis demander à Martin Scorsese ce qu'il pense de Marvel Studios. C'est pas triste ça? T'es un journaliste, tu fais face à Scorsese. Je veux dire, si tu pouvais ressusciter Molière pour une journée, j'espère que la première question qu'on lui poserait serait pas « Capitaine Marlowe, vous en pensez quoi ?» Quant à la question de savoir si Marvel... Évidemment que Scorsese et Coppola ont réalisé des meilleurs films que Marvel Studios. Et vous savez quoi? Moi aussi, je peux être un putain de cinéphile, hein. Kubrick et David Lynch aussi. Et j'irai même plus loin en disant qu'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust est un livre qui mérite d'être lu. Waouh ! Prise de risque ! Je suis un déglingot. Quant à la question de savoir si Marvel, avec ses films produits à la chaîne, raconte quelque chose, eh ben je me dis qu'il faudrait peut-être poser la question aux millions de Noirs ou de femmes qui se sont sentis heureux de voir avec Black Panther et Captain Marvel des super-héros et héroïnes qui enfin leur ressemblent. Alors ok, les scénarios sont moins bien filmés que quand c'est Scorsese ou De Palma qui racontent l'histoire d'Italo-Américains mafieux qui cognent leurs femmes. Mais la représentativité au cinéma, eh ben ça compte aussi. Enfin, si vous n'êtes absolument pas d'accord avec ce que je viens de dire, Syphilis 24, pas besoin de souhaiter ma mort sur les réseaux sociaux. Je ne le lirai pas, car cet après-midi, je vais faire comme plein de gens, aller voir des bons films au cinéma.
Bravo, Patrick. France Inter. Pour info, Syphilis 24, c'est Guillermo Guise. J'ai pas l'habitude de dénoncer les copains, mais quand même, Reda Kateb, Vincent Cassel, qu'est-ce qui vous attend dans les semaines qui viennent en projet, en tournage, ou déjà des films tournés qui vont sortir bientôt? Où est-ce qu'on vous retrouve avec tendresse, tous les deux? Ou moins de tendresse?
Au café du coin.
Ok.
Dans le jardin d'enfants. Ouais. Non, mais pour le moment, j'ai rien à annoncer. Vraiment, je suis à fond sur Arnois, mais il y a des choses qui se profilent pour la suite, mais rien d'assez calé pour que je vous en parle aujourd'hui.
D'accord, Vincent.
Ben oui, moi aussi, c'est hors norme là, surtout que ça sort demain et qu'on y tient tous énormément et puis qu'en plus ce film aura du succès, plus il sera impossible pour les politiques de l'éviter. Ouais. Donc on espère vraiment qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, que on va vraiment continuer à parler de tout ça. Mais en détail, je viens de revenir du tournage de Westworld.
D'accord.
Donc, ma première série télé. Et c'était vraiment très sympa.
Saison 3.
J'aime bien.
Saison 3, troisième saison.
Vous me dites, j'ai pas grand chose à annoncer. Je reviens du tournage de la saison 3.
Accessoirement,
comme ça, sur un malentendu. Et maintenant, je vais me reposer un peu avant de repartir sur le gros prochain film de je ne sais pas qui. Rapidement, Albert, je crois que tu voulais parler aussi d'un documentaire qui va passer sur France 2, dans Infrarouge.
Ouais, le 28, dans Infrarouge, présenté par Marie Drucker. C'est un documentaire un pour un sur l'accompagnement d'autisme profond, justement par les référents du relais Île-de-France. C'est un document remarquable. Alors là, c'est un documentaire, mais tout à fait remarquable. C'est lundi 28. Il faut aller voir hors normes et aussi voir ce documentaire.
Ça n'empêche pas absolument. Fred Sigris.
Et là, on a parlé de la prise en charge des enfants autistes, mais il y a aussi tous les enfants en situation de handicap dans les écoles qui sont soutenus par les auxiliaires de vie.
Ouais.
Et depuis, il y a un certain nombre d'auxiliaires de vie qui, depuis la rentrée, n'ont pas été payés et elles gagnent déjà peu. Et je trouve que, voilà, j'avais envie d'en parler aussi parce que
c'est le même problème.
Justement, on poursuit le tour de table. Tanguy, s'il fallait retenir quelque chose de cette émission.
Bah, j'ai appris énormément de choses aujourd'hui sur un sujet complexe, au contraire de toutes les émissions qu'on a faites avant. Donc, voilà.
Allez, on va prendre ça comme un compliment. Tom Villa.
Nakache et Toledano, c'est une marque de fabrique. Et quand je vois l'émotion avec laquelle en parle Albert, je me dis voilà, ça fait deux bonnes raisons pour aller voir ce film.
Albert.
Ben, il faut aller voir ce film, voilà. Ouais. Parce que je pense, ce que disait Reda, ce que disait Vincent, ça a contribué à changer le regard des gens, de la société, et surtout des politiques. Enfin, je l'espère.
Tanguy, c'est déjà fait, Fred, le mot pour les AVS.
Oui, et ouais. puis aller voir le film aussi, et parce que c'est voilà, c'est il y a des gens qui viennent de nulle part, mais qui se battent pour que bah on soit dans une société viable. Et merci à eux. Et c'est dommage des fois de voir que les institutions font obstacle à ça.
Daniel,
moi j'ai parlé avec Reda tout à l'heure et je lui disais que j'avais trouvé ce film très oppressant, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire que j'ai été choqué par une situation qui se passe dans un pays qui est le nôtre, qui est la France. Et j'espère vraiment que ce film va faire écho. Ce que vous disiez tout à l'heure, Vincent Cassel, que ça va bouleverser et blackbouler quelques personnes.
Est-ce que vous espérez tous les deux, j'imagine, c'est un peu ça.
Complètement,
que...
oui, ouais. On est
tout ce que vous dites, en fait, c'est vraiment ça. On espère évidemment partager ce film avec le plus grand nombre, et c'est très rare, je pense, d'être dans un film où on se dit qu'on peut faire bouger quelque chose dans la société juste avec un film de cinéma. Je crois que c'est le cas. Donc, on l'espère, en tout cas.
Et je rappelle, pour le Relais Île-de-France de Daoud Tatou, qui est venu tout à l'heure, le site internet, leRelaisIDF.com, et puis le site internet aussi de Stéphane Benhamou, lesilencesdesjustes.fr, comme ça, on l'a annoncé pour tous les deux. Alors, je ne peux pas, en effet, annoncer toutes les associations, et il y en a beaucoup, ne m'en voulez pas. Là, il s'agissait du film Hors Norme, et des deux personnages qui ont inspiré, voilà, ces deux très très beaux rôles. Daniel, il est temps de présenter nos excuses.
Oh, bien sûr, déjà, désolé pour nos auditeurs qui se sont dit, ah, chouette, il y a Guillaume Auguise aujourd'hui, c'est Félix 24. Ça va être une émission bien dégueulasse et sans cœur. Eh ben non, on était dans le partage, dans l'humain. On était dans le kidour, quoi. Désolé pour nos auditeurs amoureux de Catherine Deneuve qui ont entendu leur idole se faire bafouer, saloper par Guillaume Auguise qui a cité la grande Catherine à propos du cinéma, qui aurait dit « Je m'en bats les couilles, c'est à peine mes cours de tir ». C'est faux, les amis, elle n'a jamais dit cours de tir. Désolé pour Vincent Cassel qui s'est pris vent sur vent à l'occasion de ses kidours. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Vincent. Je vous ai arrangé un kidour avec Kadour. Elle n'est pas au courant, mais elle est d'accord. Et si jamais elle ne veut pas, ce qui m'étonnerait, on va trouver une solution.
On trouve toujours une solution. Merci à Reda Kateb et Vincent Cassel d'avoir été avec nous
bravo
aujourd'hui.
Merci
et bravo.
Merci à vous. Merci.
Demain, on se retrouve avec Charlotte Gainsbourg et Yvon Attal pour le film Mon chien stupide.